Moi, je suis André du Wisma, locataire oriental. Je respecte totalement ce qui
se passe. Moi, c'est une compagnie au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de l'esprit vivant, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. La Banque mondiale a lancé à Kinshasa le vendredi 11 novembre dernier le mois dédié à l'agriculture pour relever le défi dans ce secteur au niveau national. Entre 2010 et 2016, la Banque mondiale a mobilisé et investi près de 455 millions de dollars dans l'amélioration de la production agricole dans certaines provinces de la RDC. Certains observateurs estiment que l'amélioration de la production agricole devrait plutôt être inscrite dans un plan global entre la RDC et la Banque mondiale. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez participer à cette émission à l'adresse pa@radiocapi.net et vous pouvez également nous rejoindre et sur votre page Facebook intervenir aussi en direct. Vous avez la possibilité également de poster vos commentaires sur notre page Facebook et également sur notre site. Julie Faisa Bongonde est au standard et à la réalisation de cette émission. Héritier est à la mise en onde. Et si Martin Sébujanvier supervise cette émission qui est coordonnée et présentée par J.R. Lungebo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungebo.
Merci, c'est Christophe Paul Badiagam qui est à la mise en onde. Nous recevons dans ce studio Monsieur Maburuki Tembo, qui est professeur des universités, expert en macroéconomique et politique et stratégie de développement. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que fait qu'aujourd'hui le partenariat entre la RDC et des institutions de Bretton Woods, particulièrement la Banque mondiale, dans le cadre de l'amélioration de la production agricole, depuis un certain temps, semble ne pas marcher au regard parfois des analyses faites par certains experts qui, en fait, évoquent l'échec criant de ces projets, de ces différents projets.
Nous ne pouvons pas dire que c'est vraiment un échec constel, mais parce que c'est quelque chose que l'on peut constater depuis 2003, lors de la déclaration de Maputo, au moment où les chefs de gouvernement et les différents chefs d'État au niveau de l'Afrique se sont réunis à Maputo pour ne pas déclarer à ce que 10%, n'est-ce pas, de leur budget soit alloué, n'est-ce pas, à l'agriculture. Et après le 2003, il y a eu une autre conférence qui s'est tenue à Malabo en juillet 2014, n'est-ce pas, là où le même chef d'État et le même chef de gouvernement ont réitéré leur engagement, n'est-ce pas, d'allouer les 10% de budget à l'agriculture. Mais il s'avère que cette allocation qui était prévue, n'est-ce pas, qui était promise par les différents chefs d'État et de gouvernement n'a pas été satisfaite. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. On ne peut pas condamner seulement les États africains, mais de l'autre côté, des partenaires aussi, il y a quelque chose que je peux dire un peu de méfiance, n'est-ce pas? Dans certains pays, là où il y a eu des cas de bonnes pratiques, on peut dire que la Banque mondiale, ils utilisent ce qu'on appelle l'appui budgétaire. Donc, ils accordent, par exemple, le million dont vous avez parlé ici. Je ne crois pas qu'ils ont accordé ça à l'RDC dans le cadre de l'appui budgétaire pour donner la marge de manœuvre au gouvernement, n'est-ce pas, d'affecter les allocations selon le secteur ou bien au niveau des provinces, selon les choix prioritaires qui sont dans les DCRP. Alors, donc, du coup, vous sentez qu'il y a des privilèges ou bien, je ne sais pas, il y a des priorités que le partenaire se font en disant non, voilà, nous allons orienter ces fonds dans telle ou telle autre province. Et des fois, là où les mêmes provinces qui ont plus, les différentes provinces qui ont plus de potentialités agricoles ne sont pas ciblées par les bailleurs. Et du coup, vous voyez que les résultats ne seront pas
exploités. Alors, quels sont les choix prioritaires, vous en tant qu'expert, au regard de réalité que représente en fait la cartographie du secteur? Quelles sont les priorités province par province, et aussi, on va dire, globale, quelle est la politique qu'il va falloir imprimer pour qu'on arrive vraiment au résultat.
Donc, la RPC, c'est un grand pays qui a la potentialité des terres arables qui va jusqu'à 750 millions, des terres arables d'État. Hein, 750 millions à 800 millions de terres d'État, pour lesquelles il y a à peu près 50 millions qui est couvert par la forêt. Mais vous voyez que chaque province a des caractéristiques spécifiques. Je peux dire que tout ce qui peut se planter, par exemple, au Bas-Congo n'est pas le même produit qu'on va planter au Kassai, ni moins encore au Nord Kivu, ou bien dans les sites Kivu, dans les Maniema. Donc, chaque province a une spécificité, a des spécificités selon les reliefs, les climats et la cartographie du sol et du sous-sol. Et donc, du coup, vous voyez que si, par exemple, la Banque mondiale choisit les Kassai, il choisit le Bas-Congo, il choisit l'Équateur, et bien sûr, il va abandonner les côtés Est parce qu'on dit que non, il y a l'insécurité, selon. Moi, j'ai fait la Banque mondiale, je connais les critères de sélection du champ d'action. Ils disent, voilà, les experts ne peuvent pas aller là-bas parce qu'ils sont dans la zone rouge. Mais voilà, oh, ce sont des zones potentiellement agricoles. Vous voyez que là, il y a maintenant quelque chose qui cloche. Il faut maintenant, si la Banque mondiale ou d'autres partenaires refusent d'aller dans l'Est, là où il y a beaucoup de protestations. Quand on parle de l'agriculture, on voit aussi l'élevage et la pêche. Mm-hmm. Et ces trois concepts vont ensemble dans l'ensemble de l'agriculture. On peut voir que l'agriculture existe, l'élevage et la pêche. Or, la zone Est est potentiellement riche de tous ces trois concepts. Or, c'est la zone qui est abandonnée par les partenaires techniques financiers. Maintenant, comment le pays ou bien comment les secteurs sera détruit?
Mais comment les partenaires peuvent-ils abandonner dès lors que dans ce pays, on a connu des plans stratégiques pour réellement arriver à améliorer la production agricole, pour ne pas citer les documents stratégiques de la réduction de la pauvreté, et qui reprend une extension ou tout simplement les besoins en ce qui concerne la spécificité, comme vous venez de dire, de chaque province. Alors pourquoi ne pas considérer ces documents stratégiques, les DSRP 1, on est allé même à DSRP 2, comme Bible pour arriver réellement à l'amélioration, au lieu plutôt de penser à d'autres plans?
Effectivement, c'est là où le bas blesse. Parce que les DSRP, dès que les techniciens du ministère du plan, ce sont des techniciens de haut calibre, des experts. Et quand ils préparent les DSRP, c'est sur base des différents diagnostics et d'évaluation des besoins de chaque province, de chaque territoire. Et puis voir, n'est-ce pas, les recettes, la prévision sur le triennal, donc les trois années qui vont suivre, voir prévoir les dépenses qui vont en suivre. Et les DSRP est toujours calé, n'est-ce pas, par un plan d'action prioritaire, le PAP, ce qu'on appelle en fait. Et puis, en même temps, on prépare ce qu'on appelle le CDMT, donc le cadre de dépenses en moyen terme, qui reprend les prévisions budgétaires triennales, donc sur le moyen terme depuis trois ans, et en même temps, revoir un peu les plans d'action, si voir quels sont les prioritaires. Maintenant, on peut décaler de trois ans chaque année. Mm-hmm. Mais malgré ça, il y a un contraste entre l'alignement budgétaire, pour que non seulement dans le cadre de l'agriculture, mais dans tous les secteurs. Mais nous, là, nous focalisons beaucoup plus sur l'agriculture. Ce qui était prévu, ou bien ce qui est prévu dans les documents stratégiques du registre de la propriété, ce n'est pas ce qui seront, n'est-ce pas, alloués en termes d'allocation budgétaire par les bailleurs.
Oui.
Et là, il y a ces contrastes. Et c'est toujours en discussion. Donc, on ne sait pas se comprendre à cela. Après, pourtant, les partenaires techniques financiers, quel que soit-il, ils sont, n'est-ce pas, à signer, ou bien ils doivent respecter le processus de la déclaration de Paris. Dans les principes de la déclaration de Paris, il y a un des principes qui dit que le partenaire technique financier, donc le partenaire de l'aide au développement, doit s'aligner aux stratégies nationales. Or, cet alignement, et il y a l'autre principe qui dit que le gouvernement, donc la partie nationale, doit s'approprier de l'aide ou bien de l'allocation de l'aide. Or, c'est deux principes, franchement, il y a quelque chose qui...
Alors, d'ouvrir les standards, revoyons un peu les parcours, le processus économique à RDC. On a vu à un certain moment plusieurs initiatives amorcées par le gouvernement, notamment pour multiplier par exemple les zones économiques. Il y a aujourd'hui les projets avec le Bukangalonzo et tant d'autres. Entre-temps, il y a l'INERA qui souffre d'ailleurs par défaut d'activité. Et, bon, au regard de ces microcosmes du secteur agricole,
Qu'est-ce qui vous inspire, vous, en tant qu'expert, aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a tentative, il y a avec des initiatives à monter, mais le résultat est loin d'être celui de ce côté.
Oui, effectivement, ça, c'est là où il y a un problème, parce qu'il y a la partie, comme vous dites, de l'INERA, donc la partie recherche. La partie recherche, donc, dans tout ce qui est éducation. La recherche, c'est tout ce qui est la productivité, comment améliorer les semences, comment améliorer la productivité, le méthode de greffage, de toute façon, dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, nous sommes encore tous dans l'agriculture de ces substances, on ne peut pas exporter donc les valeurs, donc les segments, le segment de la chaîne des valeurs ne sont pas développés, et donc il y a quelque chose qui manque, même si Bokamalon est là, il ne peut pas nourrir toute la population congolaise. Or, nous avons les potentialités de nourrir non seulement la population congolaise, mais aller même au niveau de l'exportation, au niveau de l'Afrique, même pourquoi pas du monde, parce que le pays est riche en sol, en sous-sol, et puis nous avons l'hydrographie qui est vraiment...
Donc ce n'est pas impossible aujourd'hui d'améliorer les secteurs, mais ça passe par certains préalables.
Oui, effectivement, ça passe par beaucoup de préalables, parce que l'agriculture en soi ne contribue pas beaucoup, hein, surtout de 18.3, hein, dans le cas de Papa, donc ça parle
dans le PIB.
Dans le PIB. Donc, juste là, c'est le secteur minier qui est primé au-delà de 19.5, autour de 20%. Et voilà que maintenant, le marché international de mines, des minerais, la baisse du coût de matière première, et donc l'agriculture en soi ne peut pas booster l'économie, et donc il faudrait réussir encore une fois.
Donc l'agriculture pouvait être un matelas pour éviter à ce que nous sommes vraiment les stocks.
Voilà,
merci beaucoup, professeur. On va ouvrir les standards tout en rappelant ceux qui viennent à peine de nous rejoindre et que nous parlons de l'action menée par la Banque mondiale et qui vient de lancer à Kinshasa le vendredi 11 novembre dernier, le mois dédié à l'agriculture pour relever le défi dans ce secteur au niveau national, mais tout en vous rappelant qu'entre 2010 et 2016, la Banque mondiale a mobilisé et investi près de 455 millions de dollars dans l'amélioration de la production agricole dans certaines provinces de la RDC. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Que faut-il faire pour réellement arriver à améliorer la production agricole à travers le pays?
Parole aux auditeurs.
Jean-Pierre, vous êtes à Kinshasa, nous vous accueillons, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et puis je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, et bonjour aussi à l'invité.
Alors, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, qui a évoqué le parcours économique de notre pays, la défaillance du côté de partenariat avec les partenaires techniques engagés dans ce secteur. Mais est-ce que vous pensez, comme lui, que ce n'est pas impossible et qu'il va falloir qu'on tienne compte de certains préalables? Si oui, quels sont les préalables selon vous?
En tout cas, merci vraiment de répondre. Je viens de suivre ce que l'invité vient de nous poser comme tableau. Mais en tout cas, avant que je puisse vous présenter des préalables pour qu'on puisse résoudre les problèmes, il y a des problèmes que nous devons quand même résoudre avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Les problèmes ici, les millions, c'est parce que ça fait mal que nous puissions continuer à attendre des millions et des millions qui sont mis à la disposition de notre gouvernement, et puis à la fin, il n'y a aucun résultat. Est-ce que si l'invité pouvait être quand même plus clair, nous présenter de 2010 à 2016, quelles sont les productions ou des productions projetées, quelles sont les projections au niveau de ces dates-là, et puis quelles sont les réalisations? Parce que là, je le vois un peu plus théorique, non. Je sais que si l'invité devait nous présenter et que de 2010 à 2016, nous avons autant dans telle province, dans tel territoire, nous avons effectué tel projet, et puis c'est pour le volume de tel financement, et puis la réalisation, c'est ça. Dans les termes,
Jean-Pierre, je ne sais pas, bon, peut-être sous réserve ou sous son contrôle, parce qu'il est d'ailleurs dans ce studio, mais en début, il a évoqué la rencontre de Maputo et aussi la rencontre de Malabo avec comme objectif de pouvoir amener les États à allouer pour le secteur agricole le 10% de son budget. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'États en Afrique éprouvent d'énormes difficultés, et ce qui fait qu'il y a une faible production, c'est-à-dire il y a une conséquence logique, il y a cette faible production, et par conséquent, il y a aussi des activités qui étaient en ralenti par rapport à certains projets. Je crois que c'est à ce niveau.
Oui, oui. En tout cas, à ce niveau, en tout cas, je lui conseille vraiment, il a totalement raison. Parce que la faute, ce n'est pas au financement, c'est la faute est réservée à nos gouvernements. Parce que c'est inconcevable qu'aujourd'hui, au Congo, un kilo de pionnier puisse coûter moins cher que le poisson qui vient du fleuve. C'est inconcevable qu'un sac de riz qui vient de Bumba coûte plus cher qu'un sac de riz qui vient du Pakistan. Et si peut-être que nous pouvons aller dans la production bovine, un kilo de viande produit localement coûte plus cher qu'un kilo de viande kafa qui vient si pas des milliers de kilomètres. Et tout ça revient à notre gouvernement. Quand nous disons que ce pays n'est pas gouverné et que notre pays souffre d'un problème de gouvernance et que même les bailleurs, ceux qui financent ça, il y a aussi un problème parce qu'il n'y a pas des rapports, c'est comme s'il n'y a pas un suivi permanent pour voir quels sont les
argent
que nous avons investi et quels sont possédés pour les résultats.
Alors pour vous, quels sont les préalables pour qu'on améliore la production?
Pour qu'on puisse améliorer, on doit aller à la base et puis identifier les organisations qui travaillent dans le secteur agricole. Et puis, ça ne se fera pas ici à Kinshasa. Et puis, ceux qui sont ici sur la base, de les rapporter seulement sur dans les ordinateurs et consoles, on pourra passer d'une maison à une autre. Oui, mais ce n'est pas ça. On doit identifier réellement. Et puis, notre ministère de l'Agriculture, c'est lui qui a la politique nationale de la production agricole. Notre ministère va nous dire que cette année, nous, le secteur agricole, on doit produire autant de tonnes de maïs, on doit produire autant de tonnes de manioc, on doit produire autant de tonnes de poissons. Et quelle est l'enveloppe? Nous allons mettre autant d'enveloppes pour l'industrialisation ou bien une production industrielle de la pêche ou bien organiser une pêche industrielle dans telle localité, par exemple, dans les territoires, dans la province de Ituri, là où il y a les lacs. Au niveau des Kassim, on aura autant de bateaux de pêche pour telle enveloppe. Et de telle année à telle année, on va produire autant de kilos de café à Wamba ou bien dans les territoires au niveau de la province de Haute-Ouélé, autant de tonnes de café. Et c'est ce que nous attendons de notre gouvernement. Et puis aujourd'hui, notre ministère de l'Agriculture, c'est comme si c'est un gestionnaire d'un parc agricole Bukangalonzo. Ça ne représente rien de ce que le pays attend. Et ce n'est pas seulement qu'aujourd'hui qu'on puisse faire une ferme de la CELE, dire que c'est ça les réalisations d'un gouvernement. C'est que le gouvernement ou bien la politique des ministères de l'Agriculture, ce n'est pas un gestionnaire d'un parc ou bien d'une ferme. C'est qui va dresser la politique nationale de la production agricole. Si ça sera pour les volailles, on doit produire combien de volailles, de tonnes, combien de maïs, combien de tonnes de riz, combien de tonnes et combien de tonnes de poissons pour qu'on puisse pas aller où on reste et puis on va voter la loi. On va interdire l'importation d'un piodi ou bien on doit interdire l'importation des riz pakistanais. Non, c'est notre politique nationale.
On doit répondre. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Là, je retiens deux préalables. D'abord, vous avez souhaité qu'on puisse identifier les organisations engagées dans le secteur agricole. Et deuxièmement, vous souhaiterez que, en fait, on puisse travailler sur des projections à moyen, à court et à long terme, à court, à moyen et à long terme, au niveau du ministère de l'Agriculture qui a la charge donc de la politique nationale de l'agriculture. Et vous souhaiterez donc que, autant on exige des résultats aux régies financières pour mobiliser les recettes dans les trésors publics, autant on doit également travailler sur un contrat de performance au niveau du ministère de l'Agriculture afin de pouvoir améliorer la production agricole. Merci beaucoup. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci pour m'avoir associé à cette émission. En fait, j'ai suivi les professeurs, les invités. J'ai suivi aussi notre compatriote qui vient de parler. Faisant mienne leur proposition à ce qui concerne l'identification des organisations, que ce soit gouvernementales ou non gouvernementales, qui travaillent dans le secteur de l'agriculture. Et aussi qu'on essaye de voir au niveau du ministère national de l'agriculture, au niveau de l'agri-pêche et tout ça, et même au niveau des ministères provinciaux. Je pense qu'à cela, il va falloir ajouter un aspect important, l'aspect du plan global agricole congolais. Je sais que ce plan-là existe. Monsieur le journaliste, permettez que je vous dise que je ne suis pas physiocrate pour affirmer ce que j'affirme, c'est que dans beaucoup d'États du monde qui n'ont pas eu la chance d'avoir certaines ressources minières comme chez nous, ils ont focalisé leur économie sur l'agriculture. Et je vous cite le cas de l'Éthiopie, je vous cite le cas le cas du Kenya, je vous cite le cas du Rwanda. Donc ce sont des États qui ont tout simplement saisi l'opportunité que leur offre leur espace agricole et ils ont fait de l'économie, ils ont fait de l'agriculture le secteur primordial de l'économie. Lorsque vous traversez tout le monde chez nous, nous qui sommes en Ituri, vous traversez l'Ouganda, vous vous rendez compte qu'à un niveau donné, ce pays a complètement terminé ou éradiqué le problème de la faim. Pourquoi? Puisque je voudrais que les Congolais comprennent aujourd'hui, et surtout les gouvernants, ils comprennent qu'aujourd'hui au Congo, nous avons aussi ce grand problème de la faim. Ce matin, si vous pouvez prendre 10 personnes, vous les interrogez. Vous allez vous rendre compte que sur les 10 personnes, 2 personnes seulement ont mangé. Et cette histoire-là pose effectivement un problème même de la participation, puisque nous parlons de préalable, de la participation des ménages dans la politique agricole. Puisque moi, j'ai toujours dit ceci, c'est que dans un pays comme la RDC, il faut que nous puissions avoir une politique simpliste en matière de l'agriculture. Une politique qui peut se résumer à, donc, un lot de terre par ménage. Chaque ménage, un lot de terre. Et ceci peut permettre à ce que d'abord au niveau de l'agriculture substantielle ou de l'agriculture tout seulement de consommation, le Congo puisse résoudre ses problèmes agricoles. Et alors à cela s'ajoute l'envergure des projets, ça veut dire ici, comme nous parlons de la Banque mondiale, il y a des projets qui sont élaborés, comme Bukangalonzo, moi je ne néglige pas cela, mais il va falloir que cela se place sur l'ensemble de la RDC. Aussi, je me marie à l'idée déjà qui pense que la politique agricole au Congo souffre d'un problème de planification. Qu'est-ce que l'on veut exactement du Congo à ce qui concerne l'agriculture? La province de l'Ituri, la province de la Sokola, d'où les problèmes du Congo? Est-ce que le gouvernement est à même de dire que si nous appelons la Banque mondiale, est-ce que nous pouvons avoir un endroit sur lequel on va pratiquer un projet agricole? C'est ça le problème. Moi, je me dis même tout de suite ici. S'il faut qu'on appelle tous les gouverneurs dans leur conférence, qu'on leur pose des questions, messieurs, dites-nous, d'ici 5 ans, quel sera le grenier agricole de vos provinces? Je parie qu'à cette question, nous risquons de ne pas avoir de réponse. Et c'est ça le plus grave danger. Je crois aussi, monsieur le journaliste, peut-être pour terminer par là, il faut qu'il y ait une gouvernance agricole sérieuse dans ce pays. Je l'ai dit, je ne suis pas physiocrate, mais j'insiste, c'est que beaucoup d'États du monde ont ficelé leur économie en utilisant rationnellement les sols, la terre, et cela a permis que nous puissions, que cet État-là puisse se développer. Puisque j'ai toujours dit, monsieur, c'est que le développement primaire, c'est le développement humain. Et le développement humain est facteur de la prise en charge responsable à ce qui concerne l'agriculture.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Vous avez beaucoup plus insisté sur la politique agricole qui souffre de la planification. Alors, on va prendre en première ligne, là, il y a l'ingénieur qui nous a rejoint à ce niveau du débat, l'agronome Eric, qui nous a appelé des cuites. Monsieur Eric, vous êtes avec nous, ingénieur Eric.
Oui, je suis avec vous.
Alors, vous venez de suivre tout à l'heure, Sylvain, qui évoque l'absence, en fait, de la planification de la politique agricole nationale.
Oui, vous comprendrez avec moi que d'ailleurs l'invité a d'abord raison de dire tout ce qu'il dit là, parce que au Congo nous avons d'abord un problème de gouvernance. Le premier problème c'est ça. Quand je parle de problème de gouvernance, je fais directement allusion à l'homme congolais. Vous allez comprendre avec moi, Julien, que l'homme congolais n'est pas encore à mesure de faire quelque chose de bien. Pourquoi? Je vous donnerai un exemple. D'un bureau d'études de la Banque mondiale qui est venu ici à Sucuit. Nous avons passé notre test. Alors, nous avons, il y a les uns qui ont réussi et les autres n'ont pas réussi. C'est comme ça. Au lieu de nous donner tout ce qu'ils pouvaient nous donner, soit d'aller dans des villages, faire des enquêtes socio-démographiques et tout ça, mais ils ont préféré de prendre leurs amis, leurs camarades, je ne sais moi comment, leurs frères. Ils sont venus à Sucuit, ils sont allés au village passer des bons moments là-bas, je ne sais moi. Alors nous qui avions passé les premières classes, et nous qui avions réussi, nous avons été écartés. Et sous prétexte, ils nous disent que vous devez passer les secondes tests. Nous avons passé les
secondes tests. Alors, Cassé la Métienne, oui, Cassé la Métienne.
Nous allons corriger à qui?
Oui, Cassé la Métienne, oui.
Allô?
Ingénieur agronome, Cassé la Métienne, c'est vrai, bon, c'est quand même un point que vous allez suivre ça en privé. Mais aujourd'hui, quels sont les préalables pour qu'on arrive à améliorer la production agricole? Vous avez suivi, le manque de la planification.
Un programme national d'agriculture ici en RDC. Nous n'avons pas de programme. Même s'il y a des programmes, tous ces programmes sont incohérents. Ces programmes ne répondent pas aux préoccupations des Congolais. Vous allez comprendre que tous ces projets qui viennent, que ce soit à Kikwit ou ailleurs, vous allez comprendre, tous ces projets ont des programmes incohérents.
ça ne coïncide même pas avec la réalité.
Oui, mais quand vous parlez de l'incohérence, quand vous parlez de l'incohérence,
c'est la sous-alimentation et de la malnutrition.
Merci. Voilà, donc on va voir ça avec notre invité. Quand vous parlez de l'incohérence, c'est à quel niveau? Bon, on ne saura pas vraiment en détail. Sylvain Desbouni a parlé de la politique agricole qui souffre de la planification. Il y a, Eric qui vient de réfléchir en disant qu'il y a quand même des projets qui existent, mais qui sont incohérents. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, J.R. Lungembo, bonjour à monsieur l'invité.
De l'absence de la planification de la politique agricole et de l'incohérence au niveau des projets, et quel est votre commentaire et qu'est-ce que vous ajoutez à ce niveau du débat?
Oui, merci J.R. Lungembo de l'opportunité. Je pense que je partage totalement le point de vue développé par mon frère et mon compatriote Sylvain Desbouni. Donc il a dit vrai. Je pense que c'est d'abord une honte pour notre pays lorsque c'est la Banque mondiale qui veut nous donner des leçons, ce qui devrait être pris au sérieux par notre propre gouvernement. Parce que nous aimons toujours le dire qu'il faut faire d'abord de l'agriculture une priorité des priorités pour prétendre avoir un certain développement. Parce que si nous nous intéressons sur les ressources minières, à un certain moment, ça doit s'arrêter. Sylvain a cité certains pays, mais aujourd'hui, lorsque vous prenez le cas du Sénégal, le cas de la Côte d'Ivoire, le pays qui ont compris qu'il faut exploiter donc l'agriculture, ce pays-là ne souffre pas comme nous, nous sommes en train de le faire. Maintenant, quels sont les préalables qu'il faut encore ajouter sur ce qui était déjà donné par les amis? Je pense que le premier préalable, à mon humble avis, nous devrons d'abord passer de l'agriculture artisane vers la mécanisation de l'agriculture dans notre pays. Parce que nous avons beaucoup d'espace vert et lorsque nous faisons cette agriculture artisane, c'est pour le ventre tout simplement. Mais si les décideurs politiques parvenaient à mécaniser l'agriculture, je pense que ce sera l'une des solutions la plus durable. Deuxième préalable, il est souhaitable qu'on puisse revoir les routes des dessertes agricoles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de routes. Il y a les amis du fait qui vous culturent, mais c'est leur culture pourrisse par manque de routes pour les transporter vers le grand centre urbain pour la consommation. Troisièmement, je pense que le gouvernement congolais doit d'abord venir en aide aux agriculteurs avec des intrants agricoles. C'est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certains coins qui continuent toujours à utiliser les intrants qui ne produisent presque plus rien. Mais dans d'autres, sous d'autres cieux, vous verrez qu'il y a une augmentation, il y a une modernisation de l'agriculture. Voilà quelques préalables que j'avais pour ajouter sur ce que Sylvain venait de dire, parce que le manque d'une politique générale agricole souffre dans notre pays.
Merci beaucoup à Adrien, avec les trois préalables que vous venez d'évoquer, pour compléter d'ailleurs à ce niveau du débat, vos prédécesseurs, il s'agit là de Jean-Pierre qui nous a appelé de Kinshasa, et Sylvain Desbouni qui évoquait tout à l'heure la politique agricole, RDC qui souffre quand même de la planification, et également Adrien, dont vous avez parlé de routes de dessertes agricoles qui doivent être améliorées, réhabilitées et aussi pour permettre l'évacuation de produits. La mécanisation de l'agriculture, c'est l'idéal pour vous pour qu'on arrive réellement au résultat. Et la question qui touche à l'encadrement des agriculteurs, ça aussi, vous estimez que c'est quand même important. Alors, Madame Agathe nous a rejoint à ce niveau du débat. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Madame Agathe.
Bonjour, Radio Okapi, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quel est votre avis?
Le gouvernement a intégré toujours la notion des chefs coutumiers. Dans le temps, les chefs coutumiers étaient grands responsables de l'enflammement de la population. Ils étaient aidés du temps des flammes, évidemment. Ils étaient aidés par les agronomes blancs, des jeunes gens comme nos enfants qui terminent ici, les
moniteurs
agricoles et tout ça. Et ils étaient les encadreurs des chefs coutumiers. Et je vais parler de mon père, ce n'est pas par égoïsme, pour donner un exemple.
Mmh.
mon père avait un agronome. Le jeune agronome, et papa a, comment dirais-je, a aidé la population à s'épanouir dans l'agriculture. Mon père lui-même, il était planteur de café, il était planteur de quinquina, et il était chaque matin dans ses plantations avec des travailleurs qu'il payait avec du sel et tout ça. Maintenant, je vois que le gouvernement parle des chefs coutumiers, mais on ne les responsabilise en rien. Même l'entretien des sentiers en terre battue était entretenu par les chefs coutumiers, disons la population. Pourquoi on ne peut plus reprendre cet exemple tout en ayant les administratifs qui vont encadrer aussi ou bien qui vont travailler avec les chefs coutumiers?
Voilà. Merci beaucoup, madame. Si je comprends bien, c'est toute cette notion, cette question relative à ce projet qui, d'antan, utilisait des moniteurs qui faisaient en fait ce travail de manière un peu professionnelle et passaient vraiment de fond en comble à l'encadrement des uns et des autres. Vous l'avez évoqué, aussi longtemps que la Constitution reconnaît le pouvoir coutumier ou l'autorité coutumière, il va falloir qu'on puisse capitaliser cela pour finalement atteindre l'objectif au niveau des provinces et en utilisant bien entendu la contribution des uns et des autres. Merci beaucoup, madame Agathe, d'avoir appelé de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Jean-Pierre, merci d'avoir appelé. Sylvain, vous êtes à Bouya, vous avez parlé de la politique agricole qui souffre de la planification. Maître Adrien, ainsi que Madame Agathe te sont parlé. Nous revenons à vous, Monsieur Mabourouki Tembo, professeur des universités, expert en macroéconomique. Vous venez de suivre les uns et les autres dans ce jeu. La politique agricole qui souffre de la planification, comme l'a dit Sylvain, de Bouya, est-ce que vous partagez cet avis?
Non, je ne sais pas partager cet avis parce que quand même, à partir de la l'idée, c'est que comme nous l'avons dit en introduisant ce sujet, l'agriculture a une place pondérante, a une place comme quoi il devrait être priorité des priorités pour réduire la pauvreté et lutter contre la sécurité alimentaire et contribuer même à la croissance. Donc, dire qu'il n'y a pas, ou bien la politique est incohérente, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas parti du ministère de l'Agriculture. J'ai un tas de scientifiques et observateurs, experts, macroéconomistes et tout ce qui a fait une expérience dans ce domaine. On va rester même moi personnellement à la Banque mondiale et ils auraient d'aller
vous dire. Vous avez été au Sénégal également. Il y a quelqu'un de l'histoire qui a évoqué d'ailleurs les cas du Sénégal. Pourquoi ne pas partager avec nous l'expérience du Sénégal qui a fait quand même des efforts pour améliorer aujourd'hui. Il est quand même placé parmi, en tout cas en termes de la production du sol, surtout en matière agricole, c'est quand même des avancées très significatives.
Oui, bon.
Un modèle à la
fois. Oui, effectivement. Bon, je vais arriver au Sénégal, mais en tout d'abord au niveau de la RDT, il y a une outil stratégique, par exemple. Quand on parle de la note de politique agricole, elle existe. Quand on parle du programme national d'investissement agricole, tenir, qui cadre région par région, les stratégies même à implanter par région, les zones économiques.
Ajoutons à cela aujourd'hui avec le PENDES, publié d'ailleurs par la présidence de la République.
Oui, tous ces documents, les politiques et les stratégies existent. Il y a même au niveau provincial, chaque province a un programme, n'est-ce pas, provincial d'investissement agricole. Et tout ça, c'est calé même au niveau des besoins, au niveau alimentaire, au niveau des territoires. Et donc, dire qu'il n'y a pas de politique, ou bien les politiques ne sont pas cohérentes, non, ça, ce n'est pas vraiment évident. C'est peut-être la mise en œuvre, dans l'allocation budgétaire à partir de nous-mêmes, au niveau du budget alloué, budget de l'État, et parce que la part, quand même, ce n'est pas très considérable, c'est un peu qu'on admette, mais aussi la part de Bayer, de Concaille, des fois dans les programmes. Ce n'est pas que je fais l'arbitrage, mais généralement dans un projet, dès que vous voyez des millions qui sont alloués, il faut voir maintenant la part des experts eux-mêmes.
Pour que les 455 millions en 2010, en 2016, voilà. Vous, en tant qu'expert en macroéconomique, qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce que le partenaire a donné à la RDC? Comment cet argent a été utilisé?
Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous voyez par exemple la répartition même de ces fonds, prenons projet par projet, vous allez voir que la part en termes de pourcentage, qui va dans la faisabilité, dans les projets en question.
Le fonctionnement, le taux de faisabilité.
Mais tout ça dépasse 50%. et la part qui va maintenant au niveau des projets, quand on a dit dans la mise en œuvre, dans la mise en œuvre du projet, et donc la rentabilité même des projets, ça ne dépasse pas 35%. La plupart des fonds, vous savez, c'est dans les études, les consultants, et on vous envoie un consultant international qui touche 700 dollars à 1000 dollars par jour, sans compter ce qu'ils appellent l'accommodation, donc l'hôtel, à manger. Ça, ce sont des prestations déshonorées seulement. Et donc, vous voyez que dans un projet, plus de 65-70%.
Mais pour pallier à ces déficits, je crois que la raison pour laquelle on avait mis en place le BCECO à l'époque, pour coordonner toutes les actions de la Banque mondiale. Est-ce que ces projets n'ont plus marché?
Non, nous avons des cellules quand même qui travaillent conjointement avec les partenaires techniques financiers. Ce ne sont pas seulement la BCECO, mais au niveau de l'initiative du plan, il y a tout un comité de pilotage qui travaille avec les différents bailleurs pour chaque programme. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas vraiment question de faiblesse gouvernementale. La volonté politique est là. Et les bailleurs de programme, il n'y a pas longtemps qu'il y a eu la revue des dépenses publiques en matière de l'agriculture. Et donc, il y a les bailleurs qui ont eu des efforts, mais aussi la volonté politique, quand même, moi, je peux reconnaître ça, parce que nous sommes invités dans des conférences, des séminaires, mais bon. Je veux qu'il y a là où, comme je disais au début, là, l'aspect recherche, l'aspect recherche a été légèrement abandonné. Parce que ça, c'est vraiment là où le bas blesse au niveau de politique et au niveau gouvernemental. Et je sais qu'il y a moyen maintenant même de réparer, de changer le fusil d'épaule et de faire la.
Est-ce que l'INERA peut vraiment reprendre du poil de la bête?
Oui,
dans les
oui,
amis.
Oui, oui, bien
ça passera par quel mécanisme? C'est un peu miracle.
Non, pas simple, absolument. Il y a un programme GA de quelques. C'est qui a été financé par la BAD, donc moi j'ai fait partie dans les études de l'accord de prêt, à peu près 40 millions de dollars, dans le cadre de l'emploi des jeunes dans l'agro-business, dans les milieux ruraux. Et c'est un projet qui est aussi, je crois, le ministre des Finances.
Alors vous considérez qu'aujourd'hui, la Banque mondiale ou encore d'autres partenaires techniques, quand ils amènent des fonds, c'est-à-dire ils viennent en appui, comme vous l'avez dit, cet argent devrait être utilisé. Comment, quelle est la stratégie que le gouvernement ou les Congolais ou encore les bénéficiaires peuvent utiliser pour réellement utiliser cet argent, ces fonds à bon escient?
Bon, comme un des collègues.
Il faut encore un mécanisme, il faut que ça passe par le ministère de l'Agriculture.
Oui, ben actuellement, avec la politique de la décentralisation, tout se passe au niveau des provinces. Parce que le fait qu'il y a déjà le programme provincial d'investissement public, de l'investissement public en matière d'agriculture, ça reprend toutes les priorités, n'est-ce pas, les besoins en termes réels, physiques, de chaque province spécifique. Et parce que les provinces, comme je disais, ils sont spécifiques, ils se diffèrent les unes aux autres. Et donc là, comme un des auditeurs disait, qu'il faut voir aussi les aspects qu'on appelle bien public, les biens publics, donc les infrastructures de base, donc telles que les routes et les pistes agricoles, les centres de stockage, ça c'est le rôle de l'État. De mettre en place un environnement pour faciliter les petits producteurs de se mettre en place, de se mettre ensemble en termes de coopératives, comme c'est fait au Sénégal, ça c'est le cas, donc le Sénégal est très fort dans ça. Les coopératives, ils ont accès aux microfinances, les coopératives sont encadrées par les agronomes, et faciliter des petits crédits, puis l'État met en place les biens publics, donc entre autres les routes du secteur agricole, les pistes, les centres de consommation, les centres de stockage, le marché public, et tout ça, ce sont des facilités. Ça, c'est le rôle de l'État de le faire. Pour les autres pays, quand même.
Ça marche vraiment. Alors, on va ouvrir encore les standards avec des inséries des auditeurs. Maître Sonville est à Lubassi, à Lébolodjoa, à Matadi. Maître Sonville, vous êtes avec nous, bonjour. Maître Sonville, vous êtes avec nous?
Bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, ma contribution est celle-ci. D'abord, le sujet et la thématique est très pertinente, puisque nous sommes quand même importateurs de produits agricoles à presque 90%. Si je parle de cela, puisque j'habite au Lubumbashi, et je sais comment est-ce que les produits agricoles proviennent de la Zambie pour essayer un peu d'inonder le marché de Lubumbashi. Par rapport à l'apport de la Banque mondiale, nous pouvons que les féliciter, mais néanmoins, la canalisation, c'est ça qui est un peu biaisé. Parce que quand cet apport de la Banque mondiale arrive, comment est-ce que cet apport est canalisé? C'est ça le problème. À ce moment-là, cet apport, c'est le gouvernement peut-être qui s'impose ou soit ce sont les organismes au niveau implanté, au niveau des provinces qui s'imposent. Puisque, monsieur Gilles, je ferai aussi allusion à l'argent de la Banque mondiale qui a été versé au niveau du gouvernement. Si vous voulez, peut-être que la Banque mondiale voulait verser pour la construction de barrages Inga. Et à un moment donné, tant que les gens de la Banque mondiale ont constaté que l'argent était mal canalisé, ils ont arrêté ces financements-là. C'est-à-dire que le problème qui est là, il n'y a pas de volonté politique dans les chefs de ceux-là qui sont proposés à recevoir cet argent, qui sont proposés à canaliser cet argent. Au-delà de ça, M. Pierrot, je dirais ceci. Et si en son temps, on avait la Banque de Crédit Agricole, cette Banque de Crédit Agricole, ne donner l'argent à ceux qui n'étaient même pas des fermiers, à ceux qui n'étaient même pas des agronomes, à ceux qui n'avaient même pas de ferme. Tout ça, ça a mis en mal le bon fonctionnement de l'agriculture, le bon fonctionnement des fermes, le bon fonctionnement des proposés de ce domaine-là. Au-delà de ça, M. Pierrot, il n'y a pas longtemps, on a vécu le problème de promotion industrielle. L'argent qui a été remis aux gens, soi-disant qu'ils avaient des fermes et tout ça, n'a jamais servi à cette fin-là. Et il y a l'impunité de ce cas-là. Vous comprendrez avec moi, si l'impunité est combattue, rien ne sera fait. Parce que lorsque la Banque mondiale octroie cet argent à la République démocratique du Congo, c'est pour que ceux-là qui sont appelés à canaliser cet argent puissent se donner directement à l'agriculture. Mais néanmoins, c'est dévié, c'est affecté à d'autres fins, c'est détourné, rien n'est fait pour les contraindre à récupérer.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Sauville. Si je comprends bien pour vous, vous aimeriez bien qu'on revienne un peu en arrière avec cette stratégie qui a été proposée en son temps, à savoir la Banque de Crédit Agricole. Vous décrivez simplement la politique qui a été utilisée dans l'octroi des crédits par rapport à cette banque, et ce qui a fait que d'ailleurs elle est tombée en faillite. Mais au moins, néanmoins, vous soutenez ces projets. Si on peut quand même y revenir, ça pourrait constituer quand même un des préalables aussi idéal. Merci beaucoup, Maître Sonville. Platini, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, ainsi que bonjour à les députés, c'est Platini Mbombo, je suis à Mbandaka, à l'Équateur. Pierrot, moi je crois que le sujet est tellement bon, mais ce qui nous préoccupe, à la fois avec le banque, à la fois avec la DCT, tout ça, comme chez nous ici à l'Équateur, il y a tout le monde, les paysans, les crétus, pour voir les maïs, les manioc, tout ça. Mais ces gens-là n'arrivent même pas à trouver où faire avoir quand même l'argent pour essayer quand même de cultiver encore une fois de plus. Moi, je crois que ce que l'invité a dit, c'est bon, mais où on trouve encore ces banques pour emprunter l'argent pour que nos mamans, nos papas puissent quand même faire encore mieux à raconter. Parce qu'à rapport avec l'agriculture, c'est bon, parce que l'agriculture, ça nous aide. Et aussi, nous aide notre province, notre pays, la RD Congo.
Allez, dis-le voir.
Parce que s'il n'y a pas l'agriculture, il n'y a pas ce qu'on appelle une bonne vie. Alors,
c'est difficile de lutter contre la pauvreté, surtout, voilà.
Et moi, je voulais quand même poser une question à l'invité. Allons, Pierrot.
Allez-y, Platini.
Oui, je voudrais quand même poser une question à l'invité. Est-ce que ces banques-là, est-ce que ça existe ici à la République démocratique et du Congo? Et si ça n'existait pas, quel est le politique du gouvernement congolais pour que ces banques soient existées, pour que le cultivateur vienne emprunter l'argent, voilà, pour qu'il cultive, pour qu'on reçoive beaucoup de choses sur notre terre.
Voilà. Merci beaucoup, Platini. Alors, on revient à vous, M. Bambouki. Bambouki, voilà. Donc, vous êtes professeur des universités, expert en macroéconomique. Vous venez de suivre les uns et les autres. Il y a quand même des préoccupations également très directes. C'est vrai, Maître Sonville a insisté sur l'existence autrefois d'une banque de crédit. Platini aimerait un peu savoir, mis à part ces projets qui, en fait, n'a pas fait long feu, faute peut-être de la gestion ou encore d'une politique qui était pas efficiente. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, il existe encore des banques de crédit, ou c'est aussi une nécessité pour que on puisse améliorer la production agricole à RDC?
Oui, merci, JR. En commençant par le dernier intervenant à Platini de Mbandaka, l'Équateur, donc on disait que comment nos mamans, les petits producteurs ou bien les petites productrices au niveau des organisations paysannes peuvent avoir accès au crédit. Et en moi, des banques commerciales ont difficile à emprunter, à donner des crédits sans qu'il y ait des hypothèques. Alors, généralement, le paysan, à son niveau, il n'a pas grand-chose, n'est-ce pas, à donner une hypothèque pour avoir, n'est-ce pas, accès à un crédit. Et c'est pourquoi ici, comme vous disiez, d'autres pays africains, même pas africains, même en Amérique latine, il y a d'autres pays qui ont beaucoup évolué en termes de d'accessibilité à des crédits ou les microfinances. Quand les associations ou bien les organisations paysannes ont un encadrement, généralement, ces associations se réunissent en coopérative et puis comme ils n'ont pas ils ne sont pas en mesure d'avoir des hypothèques, ils constituent ce qu'on appelle la caution solidaire. Mmh. Et cette caution solidaire, c'est un concept de microfinance que les microfinances utilisent. Et donc, par exemple, si 10 personnes ou bien 10 membres d'une association ou bien d'une petite coopérative se mettent ensemble, ils s'engagent vis-à-vis de la microfinance comme quoi si une ou deux personnes tombaient en faillite, ne sera pas en mesure de rembourser son crédit ou de son prêt, les autres compensent. Mmh. Et jusqu'à ce que plus tard, la personne risque de trouver maintenant sa solvabilité pour rembourser à ses collègues. Ça, c'est la caution solidaire. C'est une des facilités que les microfinances, toutes les microfinances qui existent et ceux qui ont disparu même, utilisent, n'est-ce pas, pour avoir des accès à des petits crédits, pas des petits crédits, mais sont des montants qui ne dépassent pas, disons, 1 million de dollars. Mm-hmm. Et donc là, c'est facile. Et puis généralement, là où les bas blessent au niveau des institutions de microfinances, les taux d'intérêt sont très élevés. Et pourquoi le taux d'intérêt est très élevé? C'est parce que les banquiers, donc les microfinances, ne sont pas sûrs à la solvabilité de ses clients. Et souvent, la plupart des clients ne sont pas en mesure de rembourser.
Ce ne sont pas des actions humanitaires.
Voilà, ce ne sont pas des actes. Ce sont des commerçants, ils doivent faire des profits. Et si, par exemple, quand il dit que la banque de crédit agricole est tombée en faillite, c'est sûr à l'insolvabilité. Moi, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de faits pour dire que non, la banque avait emprunté de l'argent à leur frère ou ça, tout ça. La banque n'a pas donné de crédit à des agriculteurs, mais ils ont donné ça au commerce. Ça, moi, je n'ai pas de preuves. Et donc, ce n'est pas l'histoire devant les auditeurs.
Mais au regard de cette faillite qu'a connue et la banque de crédit, vous êtes quand même expert en macroéconomique. Quelle est vraiment la cause aujourd'hui?
D'après
vos recherches.
Non, c'est pas que c'est la seule banque qui est tombée en faillite, il y a tant d'autres.
Bon, au moins la banque qui a été présentée comme, au fait, banque pour réellement prendre soin des agriculteurs, au fait, des secteurs, en fait, pour améliorer, et à l'époque, on parlait de l'agriculture priorité des priorités.
Oui, ça, c'est que je ne peux pas aller vers cette voilà, parce qu'il y a beaucoup, si vous me demandez aujourd'hui, par exemple, la copine qui marre, pourquoi il est tombé en faillite, vous allez dire, il y a beaucoup de choses dedans derrière. Bon, il y a des gens qui racontent des histoires, moi, je ne peux pas aller vers cette voilà. Parce qu'il y a des terrains glissants avec eux, on ne peut pas
aller vers cette histoire. Mais alors, on fait un petit commentaire là-dessus. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindou, Maître Omar, vous êtes à Kinshasa. Ingénieur Valérie, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, bonjour, J.R. Lungebolaboum Andje. Je suis vraiment peiné de parler de l'agriculture dans notre pays, parce qu'il faut se réaliser que c'est depuis bien des années que nous avons tous ces 800 millions d'hectares et que nous continuons à nous plaindre au sujet de la crise. J'ai bien suivi l'invité qui a dit qu'il existe un programme au niveau national et qui est aussi secondé par d'autres programmes provinciaux, tout ça. C'est tout à fait curieux de constater que nous puissions prendre des décisions sans pour autant les exécuter. Vous savez, en pédagogie, la décision est un acte volontaire qui comprend 4 étapes. Premièrement, nous avons l'appréhension. Deuxièmement, la délibération. Troisièmement, la décision. Et quatrièmement, l'exécution. La volonté intervient à partir de la deuxième étape, qui est la délibération. Donc, si quelqu'un prend des décisions et qu'il n'arrive pas à les exécuter, en tout cas, c'est un paresseux. Moi, je dois dire que nous sommes des paresseux et même des négligents. Alors, ce n'est pas normal. Comment faire pour relancer tel que vous avez posé la question? Oui, je ne voudrais pas revenir sur la planification parce que j'en ai parlé la semaine passée et beaucoup d'amis sont restés là-dessus. Mais je voudrais ajouter à la planification ceci. Premièrement, nous devons savoir, nous sommes combien d'abord dans ce pays. Que tout programme de développement part de la maîtrise du nombre de la population. Nous sommes d'abord combien dans ce pays. C'est depuis bien beaucoup d'années qu'on ne sait même pas si nous sommes combien. On nous dit, lors des recensements ou bien de l'enrôlement des électeurs, on va rouler autant, ce sont des projections. Mais nous n'avons jamais fait un recensement depuis tout ce temps. Ce recensement nous permettra, un, savoir combien nous sommes, deux, quelle est la quantité que nous-mêmes nous pouvons consommer et quel est le surplus que nous pouvons exporter. À partir de là, cette planification-là dont on nous parle au niveau national et provincial devra mériter une série d'évaluations on doit évaluer et on doit évoluer. L'INRA n'existe presque pas. D'où doit-on obtenir des semences? Lorsqu'on parle de l'agriculture, il n'y a pas que les problèmes de végétaux. La pêche, le tout ça, ça relève de ce domaine-là. Aujourd'hui, nous avons une concentration des agronomes à Kinshasa avec 800 millions de terres arables un peu partout. Et puis, même nos ingénieurs agronomes, ils sont devenus beaucoup plus vieux. Si vous faites une pondération en termes d'âge, vous verrez que le plus grand nombre d'agronomes que nous avons, les plus vieux, les jeunes gens viennent à peine. Mais ces jeunes gens-là, ils ne travaillent pas. Si les vieux sont concentrés à Kinshasa, quand est-ce que les jeunes agronomes auront de l'expérience parce qu'ils doivent travailler aux côtés des autres? C'est encore le problème. Bon, ces agronomes, s'ils viennent ici à l'intérieur, ils vont rester où? Y a-t-il déjà des infrastructures aménagées pour eux? C'est facile de dire qu'ils peuvent aller à Tchela, à Ouvira, à Kipaka, à Chileira, et ainsi de suite. Oui, mais ils vont trouver quelles infrastructures? Même lorsqu'on aura planté et qu'on aura récolté, avant l'acheminement, si ce sont des grandes quantités, y a-t-il des entrepôts bien équipés pour ça? Je me rappelle, mon fils a fait les études agricoles, ils ont un cours condition, disons, conservation des produits agricoles. Il y a des critères pour conserver un produit agricole afin qu'il ne subisse pas de fermentation. Parce que le Belge nous avait tout laissé, mais nous ne voulons pas exploiter. Si vous arrivez au rond-point Ezo, à Yolo, il y a une école là, IPA Mondele. Les Belges, ils ont prévu trois sections. La section agricole, industrie agricole et nutrition. Qu'est-ce que les Belges avaient prévu? Sachant que nous sommes d'intervocation agricole. Ils avaient prévu ceci. Un, avec la section agricole, quand un agriculteur a cultivé et qu'il a terminé, lors de la récolte pour lui, c'est fini. Et l'industriel, lui, considère maintenant la récolte, le produit fini de l'agriculteur, comme étant la matière première qu'il doit faire entrer dans son industrie afin de transformer pour avoir d'autres produits. Et après cela, c'est le nutritionniste qui l'exploite. Donc, nous avons construit la chicamine ici. Ce n'est pas avec l'argent des Katanga. La chicamine a été construite avec l'argent provenant de l'Équateur, à l'époque des caoutchoucs Géa, des cotons sédés dans le Bandundu, dans les Katanga, ainsi de suite. Mais dès que nous avons vu les recettes minières, nous nous sommes dit. Et même aujourd'hui, le cours des matières premières a repris. Mais est-ce qu'on songera même le titre à réhabiliter la MIBA qui souffre des 100 millions de dollars depuis plus de 10 ans? Est-ce que ce pays manque 100 millions de dollars pour relancer la MIBA? Donc, vous comprenez que nous négligeons tout ce que nous avons fait. Une anecdote, pardon. C'était passé à l'Internet. Si Dieu voulait un peu se reposer, il a dit au Seigneur Jésus, donnez-moi la télécommande que je vois un peu ces gens-là de la RDC, qu'est-ce qu'ils vous ont fait avec des richesses que je leur ai données. Dieu a dit que les gens qui ont fait un temps de ça, alors qu'il y avait du cuivre là-bas, il y avait du coltan là-bas, il y avait du produit agricole. Donc, vous comprenez que c'est un problème au niveau du gouvernement, il faut des stratégies, et tous les programmes qui sont déjà élaborés, que je salue en passant, doivent être mis en œuvre. Nous ne devons pas nous limiter à prendre des décisions, ça c'est la maladie des Congolais, nous devons aller jusqu'à l'application. On prend des décisions parce qu'il y a un problème en amont, mais quand on ne les exécute pas, alors on
est déjà condamné. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Voilà, on va revenir à notre invité tout à l'heure. Disons, laissez-nous quand même le temps de rappeler ce que vous venez de dire. Il faut d'abord qu'on identifie un peu, qu'on puisse un peu avoir des statistiques sur la population. Combien nous sommes, quelle quantité devons-nous consommer, et quelle quantité devions-nous à exporter, et puis évaluer au niveau des provinces à chaque fois par rapport à leur programme d'investissement. Alors, là, ça nous renvoie d'ailleurs, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit, ils disent, ben voilà, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de programmes au niveau de la RDC. Pour qu'on arrive, il faudrait vraiment qu'on puisse renforcer le tout dernier projet relatif aux réserves stratégiques. C'est comme aux États-Unis. Aujourd'hui, ils ont parfois des quantités de blé et de maïs à consommer même au-delà d'un siècle. Pourquoi nous, même avec ce programme de réserve stratégique, jusque-là, on ne dit pas combien de quantités avons-nous de blé ou de maïs en réserve. Voilà. Alors, Maître Omar, vous avez rejoint. Maître Serge Akamina, on reviendra à vous. Le temps pour nous de donner la parole à notre invité qu'il passe un mot par rapport à tout ce que les auditeurs viennent de dire.
Merci JR. Commençons par la quantité nutritionnelle. Les calculs pour savoir combien nous sommes. D'abord, le recensement de la population, le recensement général de la population, c'est un exercice qui coûte extrêmement cher. Très, très très cher. Comme vous voyez, par exemple, d'abord, parlons même d'un exemple qui est à jour, à la une actuellement, de la distribution des kits de restaurants seulement, qui est la CNI dans les exécutifs. Il fallait que les partenaires interviennent pour, n'est-ce pas, non seulement produire, pouvoir ces kits de restaurants seulement, mais aussi la logistique. Maintenant, mettez-vous à la place maintenant du pays. Enfin, des fois, nous avons aussi des faiblesses qu'il faut reconnaître. Mais généralement,
mais rappelons-le, le tout dernier recensement, c'est ça, de 80, de 81 ou 2, jusqu'à ce que c'est le 83 vers les 20, la fin des années 80.
Oui, généralement, ouais. C'est autour de 10 ans, en principe, c'est ça l'idéal. Mm-hmm. Après 10 ans, un pays doit organiser ce recensement général, ce sont les recensements généraux de la population. Mais vu l'étendue de la République, il faut vraiment beaucoup de logistique et beaucoup, beaucoup de moyens. Et dans plusieurs pays qui ont, n'est-ce pas, une étendue qui est plus ou moins moindre, l'UNFPA, les Finnois, c'est les Finnois qui prend en charge cet exercice et il met en place des fonds et puis ça se passe bien. Et on ne se limite pas par la question, on doit désagréger, on doit faire des analyses, non seulement la collecte des données, il y a l'analyse préalable des données, il y a tout ce qui est saisi et tout ce qui est la production des rapports, et puis c'est vraiment, vraiment désagrégé. Ça demande beaucoup de fonds. Là, je ne peux pas dire que le pays manque de fonds, tout comme je ne peux pas donner la faute à qui que ce soit, mais c'est vraiment un exercice qui demande tout un budget vraiment très colossal. Et tout ce qui est préparatif et tout ça. Alors, relatif à savoir combien on doit consommer, quelle quantité on doit exporter, généralement, on ne mesure pas la quantité à consommer en termes de kilogrammes ou bien en termes de tonnes par un certain nombre ou bien une caution.
Voilà, on va revenir sur la quantité à consommer, quantité à exporter, et après le flash d'information, je te rappellerai à tous qui peuvent également participer à cette émission en composant les 081-890-6315. Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange. Citoyen, Omar, vous êtes à Kinshasa, Maître Serge, vous êtes à Kamina, mais laissez quand même à notre invité de replacer vos mots, parce que avant de placer des formations, il parlait de cette difficulté de pouvoir, en fait, faire des calculs exacts quant à ce qu'on doit consommer et la production qu'on doit exporter.
Oui, ce que je disais tout de suite là, c'est que ce n'est pas en matière de quantité de tonnes par rapport à un certain nombre de la population ou bien par province qu'on doit calculer la quantité à consommer ou bien la quantité à exporter. Généralement, les nutritionnalistes utilisent les aspects en matière nutritionnelle, les kilocalories. Ce sont des mesures, n'est-ce pas, qu'on utilise dans les calculs. Donc, dire à l'auditeur que le recensement de la population doit aller de pair avec la quantité à produire et la quantité à consommer et la quantité à exporter, c'est très compliqué. On ne peut pas aller dans les détails désagrégés, savoir que les céréales et chacun, on va produire autant de tonnes de riz, autant de tonnes de haricots, autant de tonnes de bananes, on doit consommer autant. C'est très très difficile. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une étude comme ça, surtout en termes macroéconomiques. On peut utiliser ces calculs rien que pour une filière. On peut prendre par exemple le manioc et on prend ça par province. Là, on peut estimer à peu près combien la province peut produire en termes de tonnes de manioc par an, parce que le manioc se produit par an.
Ainsi
de
suite. Juste une question de curiosité, parce que c'est vrai, les tombées des mortels, il faut penser quand même à notre maman qui est à Massina, à notre maman qui est à Béni ou à Goma, ou encore dans des coins les plus périphériques du pays. Et quand on parle de macroéconomique, quel est le lien que vous établissez entre le macroéconomique et l'agriculture? Parce que c'est probablement le risque de nous retrouver dans les nuages.
Oui, effectivement.
Ou une maman qui a posé une question macro, c'est tellement grand.
Oui,
pour voilà. Ouais, mais comment on n'arrive pas à manger, c'est ça un peu la
difficulté. Oui, même le premier ministre ça avait toujours des difficultés à faire comprendre.
À faire comprendre ça, comme des mortels, quoi.
Oui, tout le monde disait, mais il parle de croissance, il parle de croissance. Et voilà, ouais, les gens disaient, alors le premier ministre, il dit le croissance à 8%, mais nous, on ne voit pas ça dans nos assiettes. Ouais. Mais c'est normal de comprendre ça, mais c'est vrai qu'il y a une croissance quand même. Le bilan est positif.
Le macro à l'agriculture pour que finalement tout le monde retrouve quoi. Parce que le débat aujourd'hui de la Banque mondiale, 455 millions, il faut améliorer le mois dédié à l'agriculture pour élever les défis. Il y a plusieurs défis.
Alors,
vous l'avez déjà d'ailleurs dit, mais le lien entre le macroéconomique et l'agriculture.
Alors, l'agriculture, quand il est effectué au niveau du ménage, hein, un ménage qui est quelque part scellé à Maluku, qui a son petit champ et puis il produit quelque chose et nourrit sa petite famille, et là c'est au niveau microéconomique.
Oui.
Et maintenant il va au niveau, l'agriculture va au niveau, la mécanisation, le programme provincial. Là ça commence déjà à prendre la lumière de macro. Et quand au niveau on va partir des industries, des usines, de la province, et maintenant.
Donc les termes clairs, les termes simples, compréhensibles, on va parler comme des mortels, quand on parle de macro, c'est au niveau de sa grandeur.
Oui,
on est donc les agrégats. Les agrégats, voilà, ouais. Donc ça dépasse un peu
les
et ça rentre maintenant dans le macro. Merci beaucoup. Notre invité, on va terminer avec Maître Omar, Maître Serge, ainsi que les derniers auditeurs, et puis on revient à vous pour la conclusion. Maître Omar, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat et là où vous êtes, prière un peu de vous repositionner pour nous permettre d'avoir une très bonne qualité de communication.
Oui, je me suis déplacé, je pense que ça va maintenant.
Oui, allez-y, maintenant c'est plus de moi.
Merci beaucoup, Gilles, de la parole que vous m'accordez. Je voudrais rapidement, avant de donner ma petite contribution, insister et dire à l'invité qu'il n'y a pas de politique agricole en RDC comme il le soutient. Parce que la politique agricole ne se limite pas à la mise en place des théories sur papier, elle est aussi lorsqu'on met en place l'exécution de ce qu'on a pris comme théorie. Alors je voudrais rapidement dire comme tout le monde que ça fait très mal que nous ayons un potentiel agricole énorme et que nous n'arrivons pas à le concrétiser pour le bien-être du Congolais. Les préalables pour moi, j'y passe par le respect de la loi sur l'agriculture qui a été votée récemment. Nous sommes un état de droit, tout secteur de la vie est réglementé par la loi, que tu dois étudier par des experts comme des professeurs. Le mal, c'est qu'en Afrique, même au Congo, on pense qu'être intellectuel, c'est parler français, d'avoir des thèses, des doctorats ou des licences. Mais un bon intellectuel, c'est celui qui utilise son savoir pour apporter des solutions à son pays. Dommage que l'élite congolaise ne le fasse pas pour son pays. Alors, premièrement, il faut passer par l'identification provinciale, territoriale, au niveau des districts de chaque agriculteur et passer aussi à leur formation. L'agriculture, JR, est une technicité. Voilà pourquoi il existe une faculté d'agronomie. Beaucoup d'agriculteurs font l'agronomie sans savoir les normes et nous n'avons pas des produits qu'on peut facilement exporter. Deuxième chose, il faut passer par la fluidité des transports. J'ai eu la chance de parcourir la plupart de nos provinces. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens quand même qui produisent des produits agricoles sérieux, mais j'ai un problème sérieux. Il y a des produits qui pourrissent faute de la fluidité du transport qui se justifie par le manque de moyens de transport, par le manque de moyens financiers pour les déplacer. Autre chose, hier, la loi que j'ai citée tantôt prévoit les fonds de la promotion agricole. Et dans notre pays, on a l'habitude d'avoir des fonds, promotion culturelle, fonds de ceci, mais ces fonds n'existent que de nom sur papier, on ne sait pas les activer. Si on peut vraiment les réactiver, à partir du recensement des agriculteurs, on pourra savoir qui est agriculteur et qui est finalement pour les financer. Et enfin, je voudrais qu'on fasse comme la Chine. En 75, il y a eu les problèmes qu'on appelait le plan interne. Lorsque le président chinois Mao Tse-tung s'est rendu compte que l'agriculture était le vivier économique de l'État, il a initié l'éducation à l'agriculture. Voilà pourquoi on parle du texte collé chinois au champ. Il y avait ce qu'on a appelé les goûts, la culture agricole dans toute la population. Aujourd'hui, les gens comme l'expression que l'agriculture est l'affaire des pauvres, l'affaire des munis, alors que l'agriculture n'est pas seulement l'affaire de l'État, mais aussi de tous citoyens. Si on peut initier au niveau des écoles l'enseignement à l'agriculture, donner à tout le monde le goût de faire l'agriculture, je crois que c'est préalable pour eux, n'est-ce pas, faire œuvre utile. Voilà, Monsieur Pirot, et je ne voudrais pas finir pour dire ceci. On a toujours eu des fonds qui ont été débloqués par la Banque mondiale, par le gouvernement, mais on ne sait pas le suivre. Et on cite des chiffres ici. Ça fait beaucoup d'années que le DCRP existe. Mais ces fonds vont aussi les contrôler. Et il y a des études, il y a des experts sur le plan technique, sur le plan statistique, sur le plan pratique, aucun résultat. Vous avez dit au professeur de faire un lien entre la macroéconomie et les pratiques aménagères. Il n'a pas été capable. Pourquoi? On est expert en des théories, mais les fonds qui sont débloqués ne sont pas vraiment canalisés.
Voilà
ma petite contribution.
Merci beaucoup. C'était l'échange citoyen. Et là même, il y a un auditeur qui nous a posé la question, pourquoi au niveau de la politique de l'enseignement universitaire, on n'interdit pas la multiplication des universités qui, en fait, proposent que les mêmes filières, économie, droit, sciences politiques, et ces derniers temps, même les universités de la cité ne donnent que, disons, ne proposent que la science politique, relations internationales. Pourquoi ne pas arriver à un niveau où l'État va imposer à tout celui qui est promoteur de l'université privée de pouvoir proposer des filières telles que l'agriculture industrielle afin de pouvoir améliorer le secteur. Voilà une des propositions. Merci beaucoup, Maître Omar. Maître Sergio, vous êtes à Camina. Bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour aussi à l'invité, à tous les auditeurs qui nous écoutent à connaître mon maïs.
Voilà. Maître Sergio, vous avez une minute et puis Dieu merci une minute. Ensuite, on va conclure avec notre invité.
Oui, moi, vraiment, j'ai rien salué. Vous savez, on a négligé le secteur agricole. Chez moi, mon Hananem l'a dit, j'ai toujours classé ça comme un secteur de la primaire. Hein? Vous pouvez avoir vos véhicules, n'importe quoi, n'importe quelle richesse, mais un véhicule, vous êtes fini par aller manger. Hein? Quand vous quittez, par exemple, ici chez nous, vous quittez ici à Kamina, la Calémie, vers Bumbashi, il y a une terre naturellement encore vierge. Mais on descend de la farine qui provient de la Zambie, un petit pays comme ça, c'est trop rentré. Hein? Voilà que le PAM a eu à organiser, il donnait la nourriture aux enfants, on a eu à maximiser beaucoup de recettes. On voyait cet enfant qui allait étudier. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment valoriser le secteur agricole? Le musée, avant de mourir, il avait dit vous devez prendre
un chèque. Avec Adama Kassé. Merci. Merci beaucoup.
Aujourd'hui, on ne sait pas.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Serge. Dieu merci, si on a encore une minute, si vous pouvez peut-être respecter quand même le timing, vous avez droit également à une minute. Dieu merci, bonjour.
Bonjour, bonjour. Je suis content de cette émission. Je suis dans une zone minière, ici chez Loa Manono. Vraiment, je veux vous dire, l'esprit de l'agriculture, commence à disparaître, peu à peu. Ce sont les gens qui ne sont même pas sensibilisés pour l'agriculture. C'est tout le monde qui se penche pour l'exploitation des cassiterites et des coltans. Moi, je me posais des questions. Après 5 ans, comment les gens vont vivre? Même les routes qui fournissent peut-être dans les centres du Manono ici, et les produits agricoles, sont en délabrement avancé. Il n'y a pas de route. Néanmoins, j'ai apprécié l'idée du ministre Kabouyoulou, parce que lui de Manono, il a pensé que les jeunes, vraiment, cherchaient comment occuper les jeunes, apprendre les jeunes de l'agriculture. Je veux vous dire, il n'y a aucun signe de montrer. Oui, de les encadrer dans l'agriculture.
Merci beaucoup, Dieu merci. On ne pourra pas aller plus loin à ce niveau de débat parce que le temps nous est parti très défaut. On va terminer avec notre invité, M. Mabouruki Tembo, professeur des universités. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais j'aimerais bien qu'en conclusion, vous mettiez un peu l'accent sur la stratégie utilisée par le gouvernement aussi dans le cadre de réserves stratégiques. Aujourd'hui, est-ce que ça marche plutôt bien? Je ne sais pas, ou peut-être que vous avez quelques propositions.
Non, je voulais rapidement rentrer sur la préoccupation du collègue qui dit que je n'étais pas en mesure de répondre à la question entre la différence entre le macroéconomie. Je suis professeur du cours de macroéconomie quand même, je ne peux pas dire que je ne suis pas en mesure de, à moins que je donne un cours en particulier, il n'y a qu'à prendre mon adresse, je vais
le donner. D'accord, on lui passera le numéro ici.
Voilà, ça c'est une façon de parler, donc c'est sur des échanges, il a qu'à raison, c'est vrai, les avocats c'est toujours comme ça, on les comprend. Bon, alors, dire par exemple en matière de réserve, il y a quelque chose que je voulais préciser quand on dit Bukangalonzo, l'État. C'est les budgets qui financent Bukangalonzo. On les considère comme étant des budgets hors budget. Ce sont des
extra-budgétaires.
Y compris comme aussi les tracteurs qui ont été distribués
dans son temps et qui se sont volatilisés d'ailleurs.
Je ne peux pas dire ça vraiment. Quand j'ai des fois sur le terrain.
Non, nous avons reçu, on a fait des émissions ici, évaluant les provinces. Les provinces reconnaissent qu'il y a eu quand même, quelque part, mais je suis au niveau des provinces. Des gens qui étaient censés. Il y a plusieurs problèmes.
Ça serait un autre débat.
On pourrait peut-être revenir sur ça.
ça dépend, ça dépend.
Il y a encore des choses à améliorer.
Il y a, oui, bien sûr, il y a des choses à améliorer, comme je disais, la richesse. Tout ce qui réserve, il faudra que, disons, le nouveau gouvernement se concentre
sur
la richesse.
C'était d'ailleurs le sujet hier, les priorités du gouvernement. Je crois que vous mettez ça dans les comptes de priorité, c'est-à-dire les secteurs agricoles, pour qu'on arrive à améliorer, c'est vrai, du point un partenariat vraiment solide avec les partenaires techniques, pour qu'on arrive réellement au résultat. Merci beaucoup, M. Mabouki Tembo. Nous rappelons que vous êtes professeur des universités, expert en macroéconomie et politique et stratégie de développement, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait les déplacements des studios. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Alors, on termine cette émission en disant merci à Paul Badianyama qui a assuré la mise en onde de cette émission, Julie Fesabomonde qui est au standard et en même temps la réalisation de ce programme supervisé par Martin et Sebou Jangwe, une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Lwabung Anji, et on se retrouve demain dans un autre numéro des paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la